les éco-ateliers. Des rencontres inspirantes avec les acteurs de la transition écologique et solidaire. Proposé par Audrey. Et voilà déjà la dernière partie du feuilleton de l'été avec une visite de la ferme du Grand Laval à Montélier, toujours en compagnie de Sébastien Blache qui a des tas d'anecdotes à nous conter. Bonne écoute!
Ça, ce petit endroit, c'est un endroit où on a commencé à réfléchir un peu l'arboriculture. Parce que, donc on disait tout à l'heure, l'arboriculture, la spécialisation des filières, c'est compliqué. C'est un verger. Au début, c'était uniquement des kiwis. Oui, les kiwis qui sont au milieu, là. Et puis, à un moment donné, on a dû bâcher parce que j'avais mal préparé mon truc, là. J'étais complètement envahi de chien-dents. Et j'arrivais pas à faire partir ces kiwis au milieu. Donc à partir du moment où on a bâché, on ne pouvait plus rentrer en tracteur. Et on s'est dit, mais est-ce que. Je me suis dit, mais en fait, tout cet espace qu'il y a au milieu là, est-ce que. Et puis tous les soins qu'on a apportés, le temps, est-ce qu'on ne pourrait pas l'optimiser en rajoutant des niveaux quoi. Et il y a tellement d'endroits dans le monde où c'est comme ça qu'il fonctionne, qu'ici c'est peut-être jouable. Donc après, j'ai foutu au milieu pour valoriser le truc de la rhubarbe. Là, on a fini la récolte là. On attend que ça va repousser pour la prochaine. Et on s'est rendu compte que la rhubarbe à l'abri des arbres, à l'ombre, ça marchait hyper bien. Chaque fois qu'on arrose, en plus, eh ben, l'eau, il y a plein d'endroits où elle tombe et où elle n'est pas forcément, elle est pas forcément sur les arbres. Donc ça évite de gaspiller. Après, au milieu, je me suis dit, bah allez, j'ai peut-être autre chose à faire. Donc j'ai mis des pêchers. Donc vous voyez les pêchers, comme ils vont bien. Ces pêchers, ils sont en quatrième feuille, là, seulement.
Ils sont beaux, hein.
Ils ont 4 ans. Donc, ils poussent comme des maboules.
Bon sol, c'est des sols profonds, là. C'est
des sols ils ont des sols... C'est pas vraiment des sols profonds, mais c'est que l'attention qu'on porte à des kiwis est tellement importante. Et surtout, les rhubarbes. Parce que si vous voulez faire de la rhubarbe, il faut fertiliser la rhubarbe. Ouais. Donc, l'hiver, chaque pied de rhubarbe, une pelle de fumier de brebis dessus. Donc vous en foutez, vous imaginez là ce que vous étalez. Donc là je peux vous dire, vos pêchers, c'est le bonheur total. Quoi. Ouais. Puis vous arrosez les rhubarbes à cette saison, donc du coup ils sont comme des fous. Et donc après je me suis dit, ah ben on a encore un peu de la place, donc si on mettait du pommier. Et du coup, on va mettre du pommier. Donc j'ai rajouté des pommiers, au début cette rangée là. Et puis là on a rajouté là, il y a 2 ans des tout petits qui sont au milieu là. Donc j'ai pris des portugais et on emboîte. Là, on va pas pouvoir en rajouter bien plus. Mais quoi qu'il en soit, ce que ça montre, c'est que cet endroit-là, bien vous voyez, il est très productif. Il est très productif. Chaque culture fait son rendement. Mais il n'y a pas que du kiwi. Il y a aussi de la pêche, il y a aussi de la pomme. Voilà. Et moi, je suis persuadé que l'arboriculture, une des réflexions à mener, c'est l'intensité. Ouais. C'est qu'il faut être plus intensif.
Il faut considérer que c'est une forêt et que dessous on peut faire.
Et du coup, ça amène aussi à la question de se mettre de la réponse face aux aléas climatiques. Quand vous faites de la lutte anti-gel, par exemple, nous on fait de la lutte par aspersion. Donc là, il y a des tourniquets avec des tourniquets spéciaux pour anti-gel. Quand vous arrosez tout ce bordel, vous n'avez pas l'impression d'arroser pour rien, quoi. Et puis aujourd'hui, si vous faites de la lutte par aspersion, il faut des moyens considérables, des volumes d'eau considérables. En gros, moi, 2 hectares, j'arrive, je peux pas dépasser les 2 hectares. Après, sinon, il me faudrait des pompes énormes, etc. Et donc, du coup, les endroits où on fait de la lutte par aspersion, on a une attention plus importante. Donc, autant l'intensifier. C'était ça le truc. Donc là, c'est pareil, on a foutu des nichoirs un petit peu de partout pour faire fonctionner le truc. Donc on va aller voir le côté. Il y avait Luc Garros ce week-end ici. Il n'arrête pas de venir arboriser sur la ferme. Il a fait les mousses ce week-end.
Les mousses.
50 espèces de mousses sur la ferme.
Donc,
Je savais même pas qu'il y avait 50 espèces de mousse possibles sur la ferme. Que des communes, hein. Ah bah merde alors. Alors c'est ça le ruisseau, vous voyez. Donc là ils sont en train de pomper là déjà, donc il y a moins de débit, mais il y a encore du débit là.
C'est,
il y a 10 espèces de poissons maintenant.
Ah oui.
10 espèces de poissons et cerise sur le gâteau. Donc ce ruisseau, mon grand-père, hein.
Les écrevisses à pattes blanches.
Non, on a mieux que ça.
Oui.
Le ruisseau, donc en 73, quand ils ont remembré, ils ont recreusé et ils ont fait passer le ruisseau là. Donc en 73, ils ont créé ça de toutes pièces, comme si je vous faisais une tranchée là et on vous fait envoyer le truc. Mon grand-père, pour faire la route, il a proposé à ce qu'il fasse un trou dans les graviers là, et puis il étanche et il a fait une réserve, mais qui est connectée au ruisseau. Donc c'est de l'eau qui rentre et qui ressort.
Ah, okay.
Bon, là, on bosse sur un projet d'inventaire du vivant sur la ferme. Donc on inventorie toutes les espèces animales et végétales présentes pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on accueille et montrer que aussi les paysans peuvent prendre leur part de responsabilité pour préserver la biodiversité. Quoi. Il y a un spécialiste des moules qui vient. Spécialiste des moules, il me dit... Putain, c'est pas croyable, vous savez les moules perlières, il y a des moules d'une complexité écologique, il y a Gilbert Cochet qui travaille dessus. C'est je bosse là-dessus, et là en ce moment je cherche une mulette dans la région. Il me dit mais là ton ruisseau là, je lui dis bah fais pas de bile, c'est un ruisseau complètement artificiel. Mais je lui dis mais moi dans les temps je l'ai vidé, il y a des moules. Donc, regarde, il fait comme ça, il y a des moules. Je dis ouais, il y a des moules, alors je l'ai décrit, je croyais que j'avais fait une photo, je trouve pas, entre temps je lui décris. Il me dit ah ouais, c'est la moule chinoise qui envahit tout à la galère et tout. Et puis j'ai dit mais tu sais, moi j'ai viré de la vase là, j'en ai remis plein dans les temps, mais je suis sûr qu'il y en a encore dans la. Parce que j'avais sorti 30 mètres cubes de vase là, je suis sûr qu'il y en a encore là-bas dedans. Le mec il me dit bah si on allait voir, on prend une bêche, on gratte. Ah bah tiens, il y en a une, je la sors. Quoi. Le mec, j'ai cru qu'il prenait un arrêt cardiaque, il fait. Et il me sort et il me dit c'est la mulette. Alors j'ai bouffé le nom, un truc du Massif Central, un truc qu'on trouve dans le Nord. Justement, il m'en parlait. Il me dit c'est incroyable qu'il en ait là. J'avais une mission d'expertise sur ce truc-là. Mais c'est pas possible. Mais comment c'est possible? Il me dit écoute, je te la prends. Et elle part au Portugal. Donc il bosse au muséum. Elle part au Portugal pour son génome. On n'avait pas fait son génome encore. Donc on va faire son génome. 15 jours plus tard, je reçois un mail. Non mais alors là, c'est le pompon. C'est pas ce que je pense. C'est la mulette épaisse. C'est un mollusque qui n'a pas été retrouvé depuis 300 ans sur le Rhum. Elle est dans toutes les annexes. En danger d'extinction, machin. C'est le truc. Il me dit là, tu peux plus rien faire. Là. En rigolant, quoi. Enfin, en rigolant administrativement, c'est la réalité. Hein. Si, si, mais tu peux plus taper dans le milieu comme ça, quoi. Tout là, c'est du Natura 2000, Mac 12. C'est mieux que l'ours, hein.
J'ai dit la mulette épaisse.
La mulette épaisse, Uniocrassus. Et le mec, incroyable. Et donc, du coup, comment elle est arrivée là? Il me dit, tu dois avoir des résurgences. Je dis, oh, il n'y a rien du tout. Non, tu peux y aller, c'est un trou dans les graviers. C'est l'eau qui arrive, qui ressort, quoi. Elle était pas toujours là, il n'était pas là le ruisseau.
Ah oui.
En 70, le ruisseau n'était pas là, il n'y avait pas d'étang, il n'y avait rien. Et ce ruisseau, avant les années 60, ils arrosaient par gravitaire. C'est-à-dire que l'eau, il coupait, tout était asséché et tout était envoyé dans les champs. Non, il n'y avait pas de mollusques, il n'y avait même pas de poissons. Et avec nos changements de pratiques agricoles, aujourd'hui, il y a de moins en moins de paysans, c'est le côté positif. Il y avait 25 irrigants là, en gravitaire sur le ruisseau. Aujourd'hui, on n'est que 3. Et on pompe tous à la pompe. Parce que c'est fini le gravitaire. On est tous à la pompe. Le ruisseau, il coule toute l'année. On n'a que 180 000 m3 de flotte à pomper. On en pompe 100 000. Donc, ça coule tout le temps. On a, du coup, ce ruisseau est devenu un habitat. Et comme l'eau est de qualité, et les mulettes, c'est véhiculé par l'ouïe des poissons. C'est les œufs qui sont véhiculés par les ouïes des poissons. Le chevenne, le veron. C'est les deux espèces qu'on a abondamment dans le ruisseau. Et dans le Rhône, ils n'arrivent pas à la trouver, mais ils ont des réponses d'ADN environnemental. Ce qui qui fait que très probablement dans les sédiments du Rhône, il y a des belles populations de mulettes épaisses qui vont découvrir du coup maintenant. Et les poissons qui migrent du Rhône à ici, on n'est qu'à 20 km du Rhône là. Ce ruisseau, en fait, il tombe dans le Guimant, qui lui tombe dans la Véor et dans le Rhône. Font que on a des remontées en permanence de poissons du Rhône qui font des allers-retours. Et dès qu'on refait vivre les ruisseaux et qu'on redonne, même un ruisseau artificiel peut devenir un habitat de fou. On a une population d'agrillons de mercure colossale sur le ruisseau.
Et là,
et non, il n'y a pas encore d'écrevisses. Il faudrait aller les foutre parce que là, les écrevisses, il n'y en a pas quoi.
Dommage. Hein.
Ouais. Donc, quand on a repris le ruisseau, il y avait zéro arbre, rien. C'était tout broyé, c'est tous des arbres que j'ai plantés. Et ou laissés repousser. Alors, vous voyez là, ce week-end, on a commencé donc ce fameux inventaire du vivant. Donc on a fait venir tout un tas de spécialistes de tout un tas de disciplines pour essayer de comprendre, d'inventorier ce que ça a provoqué en fait ce changement. Parce que là, il y a donc en 2005, on va dire, le ruisseau, il y avait une bande enherbée semée de régras de 5 mètres. Donc là, il ne reste plus que ce résidu là.
Semé de 5 mètres,
broyé dans le ruisseau, puis ensuite le champ de maïs, la haie au fond qui existait de robinier, l'ancien haie, le petit retour en chaîne qui est historique, et tout le reste, c'était ouvert. Donc ça, c'était mon oncle qui faisait cette parcelle, c'était une parcelle de 10 hectares de maïs, quoi. Hein, c'est un truc classique que vous avez vu là. Et donc, ce que vous voyez là, si on se retourne, là, les géranium herba robert, ouais. Sous l'ol, ça, c'est tout du retour naturel. C'est tout, en fait, de la résilience d'écosystèmes. Donc, c'est que des espèces communes, mais qu'on laisse avancer. Et ça, c'est vraiment de la forêt, quoi. Ça, c'est des espèces d'ombrage qui vivent dans les milieux humides, au pied. Lui qui nous a fait un peu de phytosociologie, c'est marrant, quoi. Et du coup, voilà. Et si on ne fait pas ça sur une ferme, parce qu'il faut... Il faut garder, bon voilà, on est obligé de circuler, quoi. On ne peut pas faire autrement, mais là je suis pas obligé. Vous allez voir aujourd'hui la plupart des fermes de la plaine, des parcelles, et ben vous allez voir que les mecs ont passé le broyeur. Il faut faire propre.
Au milieu des herbants. Au milieu des herbants.
Au milieu des herbants, mais au bord des rivières, ils ne peuvent plus faire. Ouais. Mais ils ont tous passé le broyeur. Donc là, laisser pousser les plantes sauvages, si vous ne le faites pas ça, mais c'est impossible de reconstituer un monde sauvage qui puisse aller avec nous dans nos cultures. C'est impossible. Il faut absolument créer des habitats. Et une autre conclusion, donc on a compris, qui va te plaire toi Jean-Louis, c'est que ce qui fait la différence, ce qui va permettre la différence, c'est ce que tous les écologues de la forêt savent et qu'il faut absolument faire. Il faut qu'il y ait du bois mort.
Ouais.
Et même ici, quand vous replantez des haies, si vous ne mettez pas de bois mort dans vos haies, il manque toute une, il y a toute une dynamique existante. C'est comme si vous voyez, on vous coupez vos deux jambes, vous mettez sur un fauteuil roulant, personne ne sait ce que c'est qu'un être humain, et on vous montre, on dit ça, tiens, c'est un être humain. Bah oui, c'est un être humain, mais sauf que vous ne fonctionnez pas vraiment bien, quoi. Il manque les jambes. Et bien là, c'est exactement pareil. Ça, c'est une haie, c'est un écosystème forestier, mais il manque l'essentiel. C'est le bois mort qui fait que toutes les communautés de la forêt peuvent être là. Et là, on l'a vraiment pris en plein dans la gueule, ça. Donc ça, on va vraiment y remédier. Alors, sachant qu'on en a mis déjà beaucoup du bois mort, mais du bois mort de gros diamètre. Chaque fois que vous faisiez dans les forêts, vous regardez le bois mort de gros diamètre et de petit diamètre. Et en fait, l'écologie de la forêt et l'écologie agricole, c'est quasi la même chose. C'est quasi la même chose. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à quel point les communautés sont vraiment dépendantes de ça. Là, il y avait des malacologues, ceux qui étudient les limaces et les escargots. Je n'étais pas trop conscient de ce truc-là, un peu, mais pas trop. 50 espèces de limates, 500 espèces d'escargots. Ouais.
Ah bon,
ouais.
Tout ça?
Ah ouais, moi aussi, j'étais un peu comme ça. J'ai dit, ah ouais, quoi, il y a les gros. Ouais. Alors, les gros, les bourgognes et les petits gris, c'est juste, vous imaginez, en Afrique, c'est les éléphants et les rhinocéros. Globalement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mais le reste, les micro-mammifères, etc., c'est des petits. Donc là, le mec, un malacologue, ça se met à quatre pattes, ça fait à peu près 22 mètres dans la nuit, un malacologue, ça écarte l'herbe à peu près comme ça là. Hein, et puis ça, ça l'occupe pendant une heure quoi. Donc là il est là le gars, moi j'ai pas mes lunettes, hein, mais il est comme ça, et puis là il vous trouve les escargots. Donc, vous savez les petits escargots qu'on voit là. Donc là c'est très sec, je pourrais en trouver des morts, mais. Donc il vous trouve les escargots. Alors là, il récupère 4-5 espèces d'escargots et on est venu là la nuit, vers 1h du matin pour les limaces. Donc à 1h du matin, là il faut chercher les limaces. Donc on a trouvé une dizaine d'espèces de limaces, dont une assez rare. Et puis les escargots. Et après il me dit, mais au fait là, sur la ferme, c'est où l'écosystème le moins perturbé qui est là? Je lui dis, bah tiens, ça c'est quand même une belle question. Je lui dis, bah il y a la haie là, cette haie du Guimand là. Donc comme elle est sur talus de gravier, vu la taille des chênes qui sont dessus, bah elle est là, ouais, elle était là avant-guerre quoi. Puis il y a le petit retour de chêne là-bas, où pareil, les arbres, ils ont, sur les photos aériennes de 47, ils sont très développés, donc ça doit avoir plus d'un siècle quoi. Là, du coup, on y va. Il se met dans la haie. Il faut savoir que la plupart des escargots, dans leur vie, ils vivent dans un rayon de 50 cm. Hein, donc ils vont pas bien loin, les gars. Hein.
Ah oui,
non, en point de vue gaz à effet de serre, ils n'en libèrent pas trop, hein. Ils prennent pas l'avion, eux. Et là, il fait comme ça dans les graviers, dans le lierre, 20 espèces d'escargots. Toutes des espèces, justement, de la forêt. Et il dit, bah, tu vois, on prend vraiment plein de compte ce que c'est qu'un réservoir de biodiversité. La conservation d'une haie et de la connexion, tout ce qu'en écologie... tout ce que les écologues, ils essaient de, ils emmerdent tous les paysans, les urbanistes et tout, en disant il faut qu'il y ait des corridors, il faut que les haies qui traversent la plaine soient préservées. Alors on est là, on essaie d'expliquer, parce que le chevreuil, il doit partir du Vercors pour aller en vacances en Ardèche. Et bien c'est aussi parce qu'il y a des espèces qui vivent dedans, et que si ce milieu il disparaît, c'est fini. L'escargot, il va pas revenir tout seul lui, on peut pas. Donc si on perd nos belles haies qui sont vieilles, on perd tout un patrimoine d'espèces qui ne sont pas en capacité de revenir. Et sur les reptiles et les amphibiens, par exemple, on a fait le bilan. Et ben des absents, il y en a beaucoup. Vous voyez, la vipère, les couleuvres d'Esculape, tout ça, ça devrait être là. Elles ne sont plus là. Ça, c'est les absents. Et comme les absents ont toujours tort, le prochain dossier qu'on va déposer, là, une fois qu'on aura bien avancé, c'est un projet de réintroduction de toute la communauté des reptiles et des amphibiens qui devraient être présents dans la veine. Ah mais moi, le CNPN, on les met face à ça. Il faut qu'il y ait de nouveau, une fois que tout est reconnecté, qu'il y a des habitats, qu'on a fait les gros bilans écologiques des inventaires dans la ferme, il faut que tous les reptiles et les amphibiens soient de nouveau là. Puisqu'il y a des politiques nationales qui prennent un argent phénoménal, et c'est très bien, pour conserver des continuités écologiques, eh bien, il faut aussi reconstituer des réservoirs de biodiversité. Mmh. Et au sein des systèmes agricoles, ça me semble prioritaire, parce que c'est surtout des systèmes agricoles qu'on a en Vallée-du-Rhône, ou en tout cas partout. Quoi. C'est pas le Vercors, malheureusement, on n'est pas dedans. Quoi.
Vous avez des chevreuils, non?
Ouais, ouais.
Ils ne font pas trop de dégâts sur les arbres?
Si, ils marquent en ce moment.
Ouais, parce que
alors là,
c'est pareil. Hein.
Ouais, ouais. Ouais, bah là, à part mettre des filets,
il y a un berger d'Anatolie.
Un berger d'Anatolie. Ouais, ça, c'est Eden. Ah, ma belle, viens, Eden.
Tinto.
Ah, là-bas au fond.
Tinto.
C'est une chienne qu'on a trouvée. Bah, des gens l'ont trouvée, et puis elle est restée dans une famille pendant un moment. Elle n'est pas pucée, pas rien du tout. Ils ont mis des affiches, personne. Elle faisait que se barrer, ils me l'ont amené. Et elle n'avait jamais vu les filets à rien, elle prenait des châtaignes dans tous les sens.
Et
instinctivement, là, elle est allée au troupeau. Elle est hyper, hyper efficace. Et donc du coup, là, ici, maintenant, t'imagines ? Il y a 4 ans, ça cartonnait de partout, le loup, et on était en zone, dans une zone administrative qui ne nous permettait pas d'avoir les aides pour les chiens de protection. Nous, on avait anticipé parce que enfin, moi, pour le coup, avec mes connaissances du dossier, arrêtez de me prendre pour... Enfin, arrêtez, il faut faire gaffe ici, quoi. On va se faire avoir. Le Vercors, il est là, donc il faut anticiper. Sauf qu'administrativement, on n'avait pas d'aide. Alors, quand les copains, ils ont des aides, vous dites, pourquoi pas nous aussi, quoi, pour entretenir les chiens. J'écris à l'administration, je leur dis, là,
on a des contacts de loups. Du coup, je vois le Béringer, je sais pas un truc, je vois deux, trois copains éleveurs. Je leur dis, là, ça chauffe, quoi. Faut nous passer pour qu'on puisse nous équiper correctement et faire ce qu'il faut, quoi. Qu'on soit pas débiles. Parce que vous savez que quand le loup, il déboule et qu'il vous cartonne vos bêtes, c'est trop tard. Hein. Ah bah, vous devenez fou furieux parce que c'est compliqué. Et puis, vous pouvez plus vous adapter. C'est fini. Lui, c'est un méga bon, ce chien.
Là-bas, c'est un chaos des gâteaux.
Le petit qui est là-bas.
Ouais.
Ouais, c'est un chaos des gâteaux.
C'est un chasseur de loups.
Ben, c'est un chien de protection. Ouais. Il est là pour protéger le troupeau. Donc, et du coup, je termine et je vous raconterai comment ça marche, le chien. Plus. Et du coup, j'envoie le courrier. Ils se réunissent. Ils me disent OK, favorable pour Montélier et machin, compte tenu du fait qu'il y avait une photo et tout. 6 mois plus tard, on passait en zone de présence permanente. C'est-à-dire on est en zone 1 ici.
L'avantage d'être en zone 1, c'est que d'un seul coup, votre troupeau, au lieu de vous rapporter à 25 000 euros, il vous rapporte plus 10 000 euros. Donc moi, le loup, il faut surtout plus qu'il parte. Donc on est en, moi, j'ai plus de 150 bêtes dehors. Donc on a une compensation qui s'appelle éleveur-berger. On fait totalement derrière elle, hein. C'est l'administration qui nous dit ben, vous y avez droit. Donc on a des filets, des chiens de protection. Et du fait qu'on vient plus souvent voir les bêtes et que ça met. Voilà, c'est quand même un travail supplémentaire. Il y a une indemnité, 25 euros par jour. Formidable, hein. Donc moi je flippe à chaque fois qu'il n'y a pas d'attaque dans le coin, quoi. Il y a encore quelques troupeaux pas protégés. Et là cette année, bam, ça a retapé sur Montélier.
Mais ça a retapé sur Marche aussi.
Ça tape de partout. Là en ce moment ça tape de partout. Donc on a mis des pièges photos, donc là il y a 2 ans, ça tapait de partout. J'avais elle, enfin j'avais d'autres, je fais mais au fait, ces chiens ils marchent, il y a du loup. Et j'ai un ami, Baptiste Morisot, t'as entendu parler, qui suit un peu le loup. Il me dit, mais tu sais, c'est pas compliqué, il suffit de mettre des pièges photos et puis tu verras. Je lui dis, ouais, mais bon, quand même, Montélier, j'y crois, mais moyen, quoi.
Oui, c'est vrai.
Je mets le piège photo comme ça. Donc, les filets étaient comme ça. Je mets le piège photo. Il me dit, comment on met ça? Il me dit, oh, bah, c'est pas compliqué. Regarde, tu vois, donc, admettons, il y a le cabanon, là. Tu mets le piège photo en direction des filets. Arrête, ça passe pas comme ça. Ah si, si, il fait le tour des filets, puis tu vas voir. Je pose le piège et tout, sans y croire, hein, vraiment, en mode. Bon, au bout de 3 jours, je suis quand même un peu curieux. Je vais chercher le piège photo, je mets la carte, je regarde, et puis c'était des petites vidéos, putain, que des tournesols, des trucs qui bougeaient. Un lièvre à gauche, un chat. Un lièvre. Puis il restait 5 vidéos, je crois. La dernière, un loup. Je fais nom de Dieu. 2 jours ?
Ah, 2 jours.
Ouais, au petit matin, quoi. Je fais, c'est pas croyable. Et en fait, donc quand vous mettez un piège photo 3 jours plus tard, vous gaulez du loup, je peux vous dire, ça veut dire qu'il est là, le loup. Hein. Ça veut pas dire que vous venez de gagner au loto. Hein. Ça veut dire qu'il est là. Et donc, du coup, après, j'étais plus vigilant sur les indices et tout. 1 mois plus tard, rebelote, quoi. Là, ce coup-ci, il est rentré dans le parc.
Il a réussi.
Bam, il s'est fait sortir par les chiens dans la foulée. Les chiens étaient derrière, les filets.
Il arrive à rentrer, il saute par-dessus, là.
Ben, en fait, je les ai mis dans des sorgos qui faisaient 1m50 de haut. Donc, le machin, en fait, quand il est arrivé, il est rentré dans les sorgos. Il ne voyait pas les chiens. Les chiens étaient dedans. Et les chiens, voilà, on l'en fait ressortir aussi sec, quoi. Et comme moi, les chiens, je leur apprends à ne pas franchir les filets. Ils ont une trouille du filet électrique, mes chiens. Moi, vous couchez les filets, il n'y a aucun chien qui sort. Le machin, il s'est empégué dans les filets en ressortant. Les chiens, ils étaient derrière. Ils ont gratté comme des
fous. De châtaignes, là.
Bah, lui, il a dû faire un gros putain, c'est pas bon plan, ce chien. Oh, merci, au revoir. Quoi. Et donc, du coup, vous voyez, les brebis, on les utilise pour gérer l'enherbement, un petit peu. Ouais. Apporter de l'hétérogénéité au verger. Alors, ça fait vraiment chier, hein, parce que. Moi, je préfère voir la prairie comme ça. Hein. Que comme ça. Il y a une semaine, elle était comme ça. Ça, c'est des Shropshire. Donc, c'est une race qui ne touche pas aux arbres. Et quand je te dis qu'elle ne touche pas aux arbres, c'est elle touche aux arbres si elles peuvent les pousser, mais. Mais tu vois, le jeune, on voit hein, les jeunes pommiers là qui sont juste attachés à un tronc. Ouais. Quoi. Tu mets n'importe quelle race de brebis là, dire qu'ils te blanchissent le tronc. Quoi.
Ah oui.
C'est ça. Moi j'ai des solognottes à côté.
Ça mange pas les feuilles ça.
Si, ça mange les feuilles, les fruits, mais pas les troncs. Ah en fait, quand tu les amènes là, elles vont t'effeuiller tout ce qui est à leur portée. Tu vois, on voit bien. Mmh. Ça fait comme une forêt où il y a du cerf, où c'est au niveau des cerfs. Quoi. Mmh. Donc quand si tu fais comme ça, là, tu vois, regarde, t'es à la hauteur des brebis. Donc là, en fait, ceux-là, ils ne sont pas encore allés chez le coiffeur, et là, ils sont allés chez le coiffeur. Mmh. Mais elles ne vont pas plus loin que ça.
Et là, c'était des nichoirs à
chauves-souris. Ça, c'est nichoirs à chauves-souris.
Hein. Et là, le truc qui est en bas,
ça, c'est pour collecter les crottes.
D'accord.
Ah ouais. Et donc, les schrops, c'est la seule race qui fonctionne comme ça. Donc, vous voyez, la Shropshire. Donc, la prairie, là, c'est à l'origine, j'ai semé une prairie de semis normal. Et là, maintenant, elle est petit à petit en train de s'enrichir. Alors, elle a 15 ans. On a repris des labours. Et ce qui est incroyable, moi, je trouve, hein, c'est que là, je la parcours juste pour mettre les filets. Et là, une station d'orchis singe. Donc, l'orchis singe, c'est une orchidée commune. Ouais. Mais ici, il n'y en a pas des orchis singes. Et il y a 15 ans, c'était du maïs. Et j'ai semé une prairie de Val-Soleil, quoi, où il n'y avait pas de semences d'orchis singe dedans. Comment elle arrive à cette orchis singe? Et ce week-end, quand on a fait l'inventaire, il y a un gars qui a déboulé. Il est spécialiste des coprophages, donc les insectes qui mangent des crottes. Et on a mis une vache. Donc j'ai une vache là maintenant, pour faire du pâturage tournant avec les brebis. Donc il y a une vache qui passe derrière les brebis pour éviter le parasitisme. On essaye ça parce qu'on a des gros problèmes de parasitisme avec les bêtes qui restent beaucoup sur place et elles amplifient leurs parasites. Et ça nous oblige à utiliser en fait des matières actives absolument dégueulasses comme l'ivermectine parce que tous les autres sont résistantes, alors que j'utilise pas de matière active. Mais quand on achète des brebis, on achète les parasites et la résistance avec. Ouais. Et comme les brebis, c'est hyper fragile, les mecs, depuis 40 ans, ils tapent avec des trucs comme le Panacure, et ça marche plus. Mmh. Donc, on passe à l'arme supérieure, quoi. Et donc, l'arme supérieure, c'est l'Ivomec. Et l'Ivermec, ça marche, mais vous défoncez tout.
Ouais. Donc, juste une crotte, une bouse de vache, qui avait été traité, enfin les vaches ont traité les vermectines, il n'y a pas d'insectes.
Ça ne se décompose pas, quoi.
Alors que dans une bouse naturelle, trois jours,
mouches. Donc le mec, donc la vache, et il y a deux semaines, je l'ai fait inséminer pour lui faire faire un veau, donc je la gardais fermée. Et là, ça y est, on a inséminé, après ça a marché a priori. Et du coup, je la mets dehors. On fait l'inventaire là, donc les bouses ont deux semaines. Pas plus que deux semaines. Le mec, il me dit, ah ouais, les bouses de vache. Je lui dis, mais tu sais, il y a deux semaines, et ça fait 70 ans qu'il n'y a pas de vache ici. Donc, à mon avis, ça va pas être la folie. Mais on va regarder. Le mec, il prend les trucs. Il est resté à quatre pattes pendant deux jours, le mec. Et le mec, sur les bouses du parc, le mec, il a sorti huit coléoptères coprophages, dont du bousier. Mais d'où ils arrivent? Mais comment c'est possible? À quelle vitesse? C'est incroyable! Il y a deux semaines, ils n'étaient pas là, quoi. Le bousier, il n'y avait pas à se bousier. C'est un bousier de la crotte de vache. Il n'était pas là, quoi. Donc, il y a des trucs qui descendent. En permanence, ça gratte. Les marques, on a fait les mares, là, au bord du ruisseau, là-bas. Et on les a creusées. C'est du sable. Il n'y a rien encore. Un mois plus tard, enfin, le lendemain, il y avait déjà dedans des gérins, des notodectes et des araignées d'eau, direct. Et là, on a un problème d'étanchéité, parce que la technique qu'on a utilisée, c'est avec de la bentonite, ça ne marche pas. Donc on est là, il faut les refaire. On regarde un peu les mares, il y avait déjà toutes les mares colonisées par des tritons, alors qu'on n'a jamais vu de triton là-bas. Dès qu'on fait une mare, il y a du triton. Dès qu'on a vipérine dedans, bon, ben, c'est mort, on peut faire un verre. Hein. Ça va à une vitesse, et ça, c'est hyper positif. Après, c'est des espèces communes. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, les poulaillers mobiles, c'est ça. Donc, les poulaillers mobiles, c'est un poulailler qu'on fait circuler dans les bandes d'arbres. Donc là, en ce moment, elle circule dans les pêchers. Ça joue aussi probablement sur la régulation d'un certain nombre de ravageurs du pêcher, et surtout sur la fertilisation du verger. Le verger, il est fertilisé que par les animaux qui passent. brebis et poules. Mais on apporte vraiment rien de plus que ça, quoi.
Et le renard, là ?
Eh bien, le renard, le point, c'est ça, quoi. Si vous ne faites pas ça, vous faites serrer direct, quoi. Eh bien, filez les clés.
Ah, les filets, oui.
Ouais. Mmh. Ah ouais, ouais, ouais. On n'a pas de problème. Et ils sont sur la ferme, les renards. Ils se reproduisent sur la ferme. Hein. Donc là, je peux vous dire que vous oubliez votre filet électrique. C'est direct.
Ils sautent pas là,
non, non.
En fait, poules, tu as pris des
on a fait plein de trucs différents et maintenant en fait on a les poules. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a plus de poules de race locale adaptées à l'agriculture. Et depuis un siècle, les poules, ça a été laminé par les poules industrielles. Et toutes les races locales, là, qu'on, c'est pratiquement, c'est pas pratiquement, c'est toutes des races qui ont été retravaillées, retrouvées. Gris du Vercors, alors là, c'est même mieux que ça, c'est carrément une invention. Ouais. Et là, je les connais hyper bien, les mecs, ils viennent vendredi en plus. Là, les dernières gris du Vercors, c'est même un hybride où ils prennent une. La poule, c'est même un truc qui sort de chez Grimaud ou Hendrix, quoi.
Ça sort de l'œuf,
mais... Non, non, c'est vraiment une invention. Mais bon, pourquoi pas inventer un truc, hein. Mais les races locales adaptées à un terroir, rusticité, etc., elles se sont fait nettoyer par les races industrielles, qui font qu'il n'y a aucun paysan aujourd'hui qui travaille avec autre chose que de la poule industrielle. Et donc, si vous voulez prendre une autre race de poule, ben, vous avez des poules d'amateurs, d'ornement, mais en fait, qui ne pondent pas. Parce que nous, pour gagner notre vie, sur des poules, compte tenu des charges, des alimentations, etc., il faut au moins être à 240 œufs sur un cycle de ponte, au moins. Et 240, la plupart des poules, elles sont à 100, 110, 120. Une poule industrielle, 350, 400. Donc la marge, vous imaginez la différence ?
Oui. Par jour, donc.
Non, un tous les 27 heures. Parce que c'est le cycle de ponte à plus de 90% que vous pouvez prolonger, en fait.
Quelqu'un qui vous dit qu'il a 6 poules et qu'il a 6 œufs par jour,
c'est de la connerie.
C'est de la connerie.
Tu le laisses combien de temps, par
exemple ? Alors, on essaie tous les 15 jours de le bouger.
D'accord.
Alors, dans le parc, après, on l'avance de 10 mètres, quoi.
Là, elle est là.
Elle a quelques...
On en a 3.
Ah ouais.
Ouais, on a 180 poules, en fait. Et 180, et on fait notre production. Ça veut dire que là, on a nos coques, on est en couveuse, on a notre couveuse et on est maintenant en circuit fermé, quoi.
Mmh.
Et là, elles ont quelle surface, les poules, à peu près?
Ah bah, elles sont sur 2 hectares. Là,
oui, non, mais
ah bah là, à chaque fois. Nous, à chaque fois, on met 2 pour que l'électricité passe, du coup, là. Elles vont jusqu'au bout du rang, là. Ouais. Donc, elles sont sur une bande de 100 mètres de long sur 2 rangées de pêchers, quoi. Voilà, je suis désolé, je dois...
Non, mais c'était très bien.
Eh bien, merci beaucoup, hein.
C'est bien.
Merci. Ouais. Merci, c'est intéressant.
Bon.
On est un peu moins bête. On a bien appris des choses.
Bon, bah écoutez, on a discuté.
Merci, bonne continuation.
Et voilà, c'était la dernière partie de cet épisode numéro 14. J'espère que cette série vous aura plu. Si vous en avez l'occasion, je ne peux que vous encourager à participer à la prochaine visite ou à tester la vente à la ferme. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site internet La Ferme du Grand Laval et les suivre sur Facebook. Je vous souhaite de passer un très bel été et à bientôt. C'était les Éco-Ateliers, proposés par Audrey.